Stop, c'est parti. Comment ça marche le journalisme?
Sur Twitter, Instagram.
On est dans un moment de grande confusion.
You are fake news.
La bonne réponse.
Un tout nouvel instant M s'ouvre sur France Inter, j'en suis ravie, il est 9h40.
Quand on regarde une série, on sait que ça va se terminer.
Vous voulez me spoiler?
Spoil.
On ne se ferme pas les yeux aussi facilement qu'on se bouche les oreilles.
Dans l'histoire de l'audiovisuel français, il y a eu un sacré précédent. Le redoutable et redouté Jean-Pierre Elkabbach. Grande voix de radio et animateur télé, intervieweur choc, homme de réseau et carnet d'adresses en or. Le journaliste, oui, le journaliste Elkabbach, fut patron de chaîne. C'était dans les années 90. Autour du redoutable et redouté Marc-Olivier Fogiel de quitter les plateaux, ceux de France 3, et de lâcher le micro, longtemps celui d'Europe 1, celui d'RTL depuis 7 ans, pour prendre les fonctions d'un dirigeant. Directeur général de BFM TV, précisément, la première chaîne d'info de France. Alors, Marc-Olivier Fogiel, ça fait quoi d'avoir beaucoup de pouvoir?
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Bonjour.
Bonjour Sonia, j'ai quitté aussi le micro de France Inter qui était le mien pendant 5 ans. Mm-hmm. Et c'est toujours un peu ma maison ici, donc je suis content de revenir à chaque fois à Radio France.
C'est ça, vous avez coupé votre portable parce que manifestement directeur général, ça fait que c'est extrêmement difficile de vous faire éteindre le téléphone. Vous êtes
c'était pareil, vous vous souvenez quand même quand je venais pour Le Divan ou pour RTL, j'avais encore
ça
mon portable.
Ça fait quoi d'avoir beaucoup de pouvoir?
Sincèrement, je le vis pas du tout comme quelque chose lié au pouvoir, plutôt avec le plaisir d'avoir une antenne qui peut traiter l'actualité, c'est ça qui m'intéresse.
Avec la conscience quand même de la puissance que représente cette chaîne.
Je pense qu'il ne faut pas réfléchir comme ça, il faut réfléchir à faire de la bonne information avec la possibilité d'avoir une antenne 24 heures sur 24 pour pouvoir la délivrer. Mais sincèrement, si on commence à réfléchir à sa puissance, à faire les choses pour telle ou telle bonne ou mauvaise raison, je pense qu'on passe à côté de la réalité de notre travail, c'est-à-dire juste faire de l'information. Moi, ce qui m'a plu en allant à BFM, c'était pas le pouvoir, c'était cet espace, cette antenne d'information. Dans ma vie professionnelle avant, on m'a fait d'autres propositions de management, comme on dit, mais sur des chaînes généralistes. Et j'ai pas avancé dans cette voie-là. Là, c'est le fait que ça soit une antenne 24 heures sur 24 d'infos qui m'intéresse.
Alors, ancien animateur du 18-20 de RTL, je vous ai fait un petit quiz parce que quand vous allez faire de la langue de bois, est-ce que vous êtes parti d'RTL? Réponse A, parce que RTL est devenue une filiale d'M6. Réponse B, parce que Christopher Baldelli, votre directeur depuis 10 ans, s'est fait virer dans l'année.
Non, parce qu'il s'est fait virer après.
Réponse C, parce que RTL a perdu sa place de première radio de France.
Rien de ces trois-là, mais non, rien de ces, objectivement, rien de ces trois-là. C'est simplement, il y a cette proposition qui m'est arrivée autour du mois de février par Hervé Bérou, qui était le directeur général.
Voilà, et qui devient un pont du groupe
absolument.
Altice, votre maison
et
mère.
J'ai réfléchi avec lui, on se connaît depuis très très longtemps, on est amis dans la vie depuis peut-être 30 ans, oui pas peut-être 30 ans, et j'ai discuté avec lui et j'ai vu à quel point ça pouvait aujourd'hui correspondre à mon parcours professionnel. Après...
C'est un ancien d'RTL.
Vrai que ça fait, oui absolument, c'est vrai que ça fait 7 ans que je faisais la même chose à RTL avec beaucoup de plaisir. Et c'est pas lié au fait que M6 en ait pris le pouvoir, c'est simplement le fait que ça faisait 7 ans que je faisais la même chose au même endroit et que je me disais qu'il était temps pour moi, peut-être, d'apprendre encore de nouvelles choses, simplement.
Alors là, vous allez apprendre. Hein. Pas facile votre arrivée à la tête de BFM TV, vous avez des objectifs d'audience. Mm-hmm. Évidemment, faute d'accord financier, BFM TV n'est plus diffusé.
Alors ça tombe mal juste pour cette
opérateur free, voilà. C'est vous attendez à quelle baisse d'audience si ça ne se règle pas tout de suite?
Si mécaniquement 15% de l'audience,
c'est
puisque
énorme.
C'est beaucoup, puisque 60% des téléspectateurs regardent BFM par des box et free représente donc le quart. Donc mécaniquement, c'est 15% de c'est 15%
alors,
de l'audience.
Alors hier, tribune de Xavier Niel, patron de Free dans les Échos, qui accuse votre maison mère, je cite, de communication mensongère et trompeuse, diffusée sur BFM TV. Je cite toujours Niel, BFM TV n'hésite pas en effet à faire reprendre de manière répétée, y compris par les journalistes de la chaîne, les communiqués de presse de son actionnaire, ce qui pose d'ailleurs la question de l'indépendance de la rédaction de BFM TV et paf.
Et paf, il faut regarder l'antenne de BFM TV plutôt que finalement juste la commenter. Vous avez vu hier que éditorialement c'était traité dans les tranches d'information, donc le communiqué a évidemment été repris parce que c'est de l'information aux téléspectateurs, mais la tribune de Xavier Niel également. Donc il y a la communication, puis il y a la réalité journalistique. La réalité journalistique, c'est que de façon totalement indépendante, hier des sujets ont été faits sur la problématique, sans évidemment que personne ne tienne la main aux journalistes qui les réalisent.
Allez, BFM TV générique. Voilà, nouvel habillage pour BFM TV qui a divisé notre équipe. On a eu une sacrée engueulade sur le sujet.
J'ai entendu ça parce que je vais balancer personne dans les couloirs de France Inter. Mais ce matin, certaines personnes dans la matinale m'ont dit mais c'était mieux quand ça bougeait dans tous les sens, quand c'était un peu trash,
etc. Moi, je trouve ça plus épuré, plus sobre, plus tranché, moins bleu drapeau, plus clin, etc., etc. Quand même, le logo de la chaîne est moins présent. En revanche, les identités des émissions sont beaucoup plus marquées, les identités des tranches.
Absolument.
Est-ce que c'est l'idée de casser comment dire, l'idée d'un flux indifférencié, ou est-ce que c'est l'idée de casser la marque BFM TV?
Non, la marque BFM TV, il faut évidemment pas qu'elle soit cassée. C'est il y a 10 millions de personnes qui
ou
la regardent.
Un petit peu sous le tapis, pas ou du un tout. Petit peu en sourdine.
Non, pas du tout. Non, on l'affirme, la marque BFM TV, la priorité au direct, elle est même indispensable. C'est un succès, les téléspectateurs viennent pour ça. Après, c'est vrai qu'il y a un travail en parallèle, mais pas à la place, d'avoir des tranches plus différenciées, donc plus marquées, d'ailleurs dans l'offre éditoriale également. Et donc, c'est vrai que l'habillage l'affirme aussi. Mais loin de moi, et surtout des équipes, l'idée de cacher ce qui est le succès de la chaîne, BFM TV, on vient regarder l'actualité en direct, on l'affirme, c'est simplement mieux ordonné, et peut-être un tout petit peu moins criard. J'espère que ça sera aussi efficace.
Et le nouveau titre de l'émission de Bruce, tout ça, on en parle. Voilà, vous étiez tous ivres morts à Miami quand vous avez validé ça.
J'étais au Cap Ferret quand j'ai pensé ça à cette émission.
Et alors, pourquoi donc le Tonight
vous aimez,
Bruce
vous
aimez, info
ou vous n'aimez pas, vous,
c'est-à-dire, pourquoi pas le Tonight Bruce News, quitte à faire que de l'anglais. Pourquoi le
ça
mot
y est, vous
info
avez, vous
et
avez,
pas
vous,
le mot
vous,
news.
Vous avez lu le tweet de Bernard Pivot.
Non, pas du tout.
Lundi, il a repris un certain nombre d'éléments et il trouvait que tout était anglais.
Sauf le mot info. Ce qui est vraiment bizarre.
Écoutez, ça, au moins ça fait parler.
C'est ça.
Moi, surtout quand on regarde l'émission, je ne sais pas si vous avez, elle est tard pour vous puisque vous voulez être
au
matin.
Parce que je me lève le matin. Mais pourquoi cette référence au light show américain pour
parce,
clairement.
Parce que dans la différenciation des tranches, celle de Bruce est importante. Et Bruce, je pense qu'il fallait le remettre dans son rôle de chef d'équipe, ce qu'il n'avait pas vraiment l'année dernière. En plus,
donc pas son rôle d'animateur américain, en fait.
Mais en fait, de chef d'équipe et de chef d'équipe où il présente une tranche assez différente de ce que il pouvait faire jusqu'à là et ce que BFM faisait jusqu'à là. Et donc je trouve que le titre appuie ça, c'est différent. Voilà, c'est différent, ça reste de l'info d'abord, c'est pour ça que ça s'appelle info et on déroule l'info d'abord, mais autrement, et je pense que le titre signifie bien ça. Et l'offre éditoriale proposée depuis deux jours par Bruce et son équipe tranche avec ce qu'il faisait avant, tout en étant dans l'ADN de la chaîne. Et c'est ça qui, me semble-t-il,
est la beaucoup plus d'humeur,
beaucoup plus d'ambiance, avec des personnalités. Mais en même temps, lundi, c'était fin de G7, débrief de l'interview d'Emmanuel Macron 20h de France 2. On restait totalement dans l'ADN de la chaîne. On a déroulé l'actualité comme il le faisait précédemment, mais un peu autrement.
Vous adressez à la rédaction et au public en arrivant d'RTL avec Alain Duhamel. Tout un symbole, Alain Duhamel. Je ne vous parle absolument pas de son âge.
Mais un peu quand même, 80 ans cette année.
Non, non, plutôt du fait qu'il incarne une forme de baronnie inamovible des journalistes politiques avec ses 56 ans de carrière. À l'heure où la rue, justement, pendant toute la crise des Gilets jaunes, a dénoncé le statut de ces éditorialistes coupés du
mais
terrain.
Mais c'est pas pour ça qu'il faut tous les mettre à la poubelle. Je pense que vous l'avez vu, tous les soirs, il affronte une sensibilité différente. Sophia Chikirou, de la France Insoumise, par exemple. Natacha Polony, Eugénie Bastier, par exemple. Je pense que c'est une référence face à laquelle aujourd'hui les nouvelles tendances, on va dire, de la société viennent s'affronter, se confronter et enrichir le dialogue. Je pense pas qu'il faille juste parce que la rue aurait dénoncé ce qui pourrait représenter, se dire qu'on va s'en passer. Simplement, c'est une présence importante, c'est la mémoire de la Ve République face auquel aujourd'hui d'autres sensibilités viennent échanger. Tout ça dans
votre rédaction aussi a dénoncé la surreprésentation, la surprésence, on va dire, des éditorialistes.
J'ai pas vu ça, mais en même temps, et tout ça dans l'émission de Routel Krief, qui incarne aussi quelque chose d'important pour la chaîne. Et donc, je trouve que ça se fait plutôt harmonieusement. Je pense que ça, voilà, et c'est. Pourquoi, pour répondre à votre question, pourquoi il est là? Parce que plutôt que des débats partout, tout le temps, c'est très identifié, c'est très à un endroit précis de la chaîne, et au moins, c'est très carré.
Voilà, alors ça, c'était hier sur BFM TV.
Il est revenu sur l'un des principaux chantiers des prochains mois, celui des retraites. Pour mieux comprendre, Loïc Pesson est avec nous. Loïc, comment fonctionne le système actuel pour la retraite de base ?
Épuisé par des mois de couverture de manifs et de ronds-points, échaudé par les critiques virulentes, celles de la rue, mais aussi celles des politiques qui n'ont pas été de main morte avec BFM TV. Et puis, rappelons-le, sidéré par la violence physique qui s'est abattue sur les reporters, quand même, ne l'oublions pas, la rédaction a réclamé une antenne peut-être moins sous pression du direct et du terrain. Plus de reportages, plus d'analyses, moins de duplex à chaud. Est-ce que ça a été le moteur de du changement de votre grille?
Moi, j'ai pas réfléchi
des
avec Hervé Béraud.
Longs, tous les lundis soirs, plus de pédagogie sur les plateaux. Là, on entendait un de vos journalistes faire de la pédagogie devant un barco. Il y en a comme ça partout dans toutes les tranches.
Il y en a surtout le matin entre 9h et midi, toujours dans l'idée de différencier les tranches et d'apporter quelque chose de supplémentaire, une plus-value. La grille telle qu'elle a été imaginée avec Hervé Béraud, Céline Pigalle, qui est la directrice de la rédaction, Franck Moulin. Et moi, c'est pas de répondre aux critiques. Objectivement, c'est pas comme ça.
Non,
c'est
là, de faire une antenne. Mais on parle pas des critiques de l'extérieur, on parle d'une rédaction.
Non, mais de la rédaction pareil.
Et d'un média qui s'est remis en question, ce qui est quand même pas banal, et c'était la première fois dans l'histoire.
Je comprends et je vois bien ce que vous me dites, c'est on essaye d'améliorer les choses simplement, et voilà, je pense qu'il est utile qu'il y ait les faits. Et ce que vous dites, il y a toujours des duplex qui couvrent l'actualité à chaud quand elle arrive, même dans une tranche comme le 9h midi qui est une tranche maintenant de pédagogie, ça s'appelle live, le live est toujours là. Très présent, ça n'empêche pas de faire de la pédagogie à côté. Et la réalité, et c'est en ça que c'est pas une révolution, Sonia, c'est que je me suis enfermé pendant quelques jours devant l'antenne de BFM TV que je consommais pas, évidemment, comme je le fais aujourd'hui, et j'ai regardé. En fait, cette pédagogie, elle était partout tout le temps.
Pas assez mise en valeur.
Mais elle n'était juste pas assez mise en valeur. Et donc, le boulot, il a juste consisté à mieux identifier les choses, mais c'est en ça que ce n'est pas une révolution. Ce que Loïc Besson, que vous avez entendu devant ce qu'on appelle le wall et qui expliquait la retraite, il expliquait l'année dernière, mais alors, de façon moins identifiée.
Marc-Olivier Fogiel, vous n'êtes pas n'importe quel journaliste aux yeux du public. Mm-hmm. C'est rare, d'ailleurs, je l'ai dit, que même qu'un patron de chaîne soit une personnalité aussi connue, aussi populaire. Ça signifie que vous vous êtes pas mal raconté comme homme et pas mal engagé comme citoyen. Je pense surtout au récit de la naissance de vos filles. Mm-hmm. Vous en avez fait un livre. Et un livre d'enquête et de témoignages intimes sur la GPA avec, à l'époque, la volonté de peser dans le débat public. La loi sur la bioéthique, qui ne comporte pas de volet GPA, la loi sur la bioéthique, c'est la CO en septembre. Est-ce que ça risque d'alimenter des suspicions, des fantasmes, des attaques sur la neutralité de BFM TV, qui est coutumière ces attaques-là?
Et moi, je suis coutumier de ces attaques-là, puisque, pour reprendre le début de mon parcours professionnel, quand je travaillais à Canal+, où je présentais une émission média, je vous parle de ça, il y a 25 ans, la suspicion était de la façon dont on allait parler de Canal+, sur une antenne qui diffusait une émission média. Ma ligne de conduite depuis ce moment-là, c'est juste de bien faire mon travail. Ça n'empêchera pas les procès d'intention, les critiques. Juste, je m'emploie à faire en sorte qu'elles ne soient pas fondées. Donc, évidemment, sur la loi bioéthique, très importante dans les évolutions de la société, toutes les tendances seront entendues sur le représenté. Ça n'empêchera pas certains d'instrumentaliser le fait que je sois dans une famille homoparentale ayant deux petites filles nées de GPA pour m'accuser, dès qu'il y aura un pro PMA, de dire que l'antenne leur est ouverte. Mais je suis habitué à ce genre de critiques, mais je suis aussi habitué à essayer de bien faire mon travail. Évidemment, l'antenne ne sera pas militante, elle sera juste objectif en équilibrant les choses et en donnant de l'information.
Dégoisera aussi probablement sur votre relation avec les Macron, la première dame de France au micro d'RTL, le vôtre, il y a très peu de temps.
C'est quoi votre rôle, Brigitte Bardot, auprès de votre mari?
Alors là, tous les couples vont comprendre. C'est-à-dire que quand il y en a un qui n'est pas bien, l'autre est là. On est là, l'un pour l'autre.
Dans vos dernières interviews, vous n'essayez pas de cacher vos relations que vous dites fluides avec le couple Macron. C'est un drôle de mot.
Bah non, fluide, ça dit bien ce que ça veut dire. C'est que, voilà, on échange professionnellement. J'ai été plus proche d'autres présidents dans le passé que de lui. Mais quand il y a un sujet, je peux l'aborder directement ou indirectement sans passer par 50 intermédiaires.
Au risque de relancer la machine, celle de la campagne électorale dont on a été tous évidemment spectateurs. C'est-à-dire d'une chaîne qui roule. Pour Emmanuel Macron.
Mais on a entendu aussi l'inverse. Une chaîne qui, à un moment donné, a donné trop de place aux Gilets jaunes et qui était contre un gouvernement. Je vous renvoie à ce que je viens de vous dire. Par ailleurs, la seule chose que je vais pouvoir mettre sur la table, c'est le fait de bien faire notre boulot. Ça roulera évidemment pas pour Emmanuel
Macron.
Et
vos relations avec Mimi Marchand?
Oui, qu'est-ce qu'elles ont?
La première enquête publiée sur cette personnalité de l'ombre, qui est une papesse de la presse People et qui a été le fer de lance de l'image du couple Macron, c'était dans Vanity Fair, et je m'en souviens très bien, c'était illustré par une photo de la dite Mimi Marchand et de vous. Oui, vous êtes une vieille connaissance.
Moi, je la connais depuis très très longtemps, puisque j'ai un passé que vous avez rappelé ici. Et je vais pas me cacher de mes amitiés, j'aime beaucoup Mimi Marchand.
La seule interview radio de Brigitte Macron sur RTL, c'est passé par elle.
Ah non,
c'est grâce
tout.
À
non,
elle
non,
que vous l'avez eue.
Non, pas du tout. Même sans trahir de secrets que je ne connais pas moi-même, il me semble que leurs relations se sont un peu distendues et qu'elle est moins dans le cercle présidentiel. Mm-hmm. Mais alors pas une seconde. Non, c'est passé par la voie traditionnelle, c'est-à-dire le cabinet de Brigitte Macron, à qui j'ai depuis des mois proposé un certain nombre de projets, plus ou moins retoqués. À un moment donné, d'ailleurs, où je voyais bien qu'on y était presque. J'ai demandé un rendez-vous à Brigitte Macron pour lui expliquer qu'on y était presque et que j'aimerais bien qu'elle y accède. Mais voilà, non, ça a été des relations comme je fais d'habitude. Non, pas du tout via Mimi Marchand. Non.
Alors, BFM TV et l'affaire Benalla.
Mm-hmm. 17h40, merci d'être avec nous. C'est du direct, de la suite dans l'affaire Benalla.
C'est l'histoire d'une ascension éclair, d'un homme passé de l'ombre à la lumière. Il s'appelle Alexandre Benalla. Il a alors 25 ans.
Il est 8h20, focus première. Évidemment, l'affaire Benalla, Emmanuel Macron pouvait-il ne pas savoir?
L'affaire Benalla, le retour. Alexandre Benalla va être prochainement convoqué par la commission d'enquête.
BFM TV va jouer très gros cette année. J'imagine qu'ils vous ont expliqué là-bas ce qui vous attend. Je vous explique pourquoi.
Racontez-moi,
c'est bien. France 4 va devenir une chaîne de télé sur Internet et va donc libérer un canal, le canal 14, situé sur nos télécommandes.
Quand? D'accord. Allez savoir quand.
Quand? Bientôt. Très bientôt. Ouais, voilà. Et ce fameux canal 14, il est juste avant le vôtre, le canal 15 de BFM TV.
J'ai suivi tout ça.
Voilà. Bref, il vous faut les faveurs des autorités publiques, évidemment, après une saison où le gouvernement en a beaucoup voulu à la chaîne. Est-ce que le mot d'ordre cette année sur BFM, c'est on ne se refait pas une année Benalla plus Gilets jaunes, on se calme.
Au risque d'être décevant dans mes réponses et de vous paraître langue de bois, le mot d'ordre BFM hier, aujourd'hui et demain,
c'est
avec
continuer
ou
à faire
sans
de
moi,
l'audience.
Mais non, continuer à faire du journalisme. Et excusez-moi, mais l'affaire Benalla, ce que vous avez entendu là, vous auriez pu faire le même zapping pour l'ensemble des antennes puisque c'était dans l'actualité. Et l'affaire Benalla a été un sujet d'actualité. Est-ce que ça a été disproportionné quand on regarde ce qu'il lui reprochait? J'en sais rien. Toujours est-il que ça a percuté l'été et il y a eu des conséquences politiques à tout ça. Et donc voilà, le mot d'ordre de BFM, c'était le cas avant, c'est le cas aujourd'hui. Demain, avec ou sans moi, c'est de faire de l'info. Mais justement, en ne tenant pas compte de tout ça et de ce qu'on pourra en dire ou pas en dire. Voilà, moi, clairement, si vous me posez la question, je n'ai eu aucun mot d'ordre de mon actionnaire et de mes patrons propres à ménager le gouvernement pour que ce canal 14 ne soit pas attribué à LCI. Pas une seconde.
Très bien. Jean-Pierre Elkabbach, patron de France Télévisions dans les années 90, je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, il est revenu à son métier interviewé.
Mais il a fait les deux en même temps, même. Parce que pendant qu'il était à France Télévisions, il interviewait François
L'élève
Mitterrand.
L'élève ne dépassera pas le maître, donc, puisque vous arrêtez l'interview. Vous étiez forgé une sacrée réputation d'intervieweur sur Canal+, et sur France 3, sur Europe 1, sur RTL. Comment elle a évolué?
Mais sur France Inter aussi, vous oubliez mes 5 ans ici, c'est pas possible. Sur France Inter.
Comment elle
aussi
a évolué votre façon d'interviewer? On se remet pas dans l'histoire hyper caricaturale du mec qui a été le.
Non, je pense simplement que j'avais ma principale qualité peut-être il y a des années, c'était d'être extrêmement à l'écoute, mais que ça ne se voit pas. Et à la fin de mon parcours l'année dernière, c'était la même qualité, sauf qu'on ne voyait que ça. Voilà, en gros.
Il y a un truc génial, Marc-Olivier Fogiel, c'est que vous avez tellement parlé de vos petites filles dans les médias que vous êtes, à mon sens, le premier homme nommé à un poste important à qui les journalistes demandent si ça sera compatible avec sa vie
et
famille.
C'est d'une grande, et j'ai une grande fierté à tout ça.
Et ben moi aussi,
j'ai une grande
fierté.
J'étais venu en parler l'année dernière chez Ali de mes petites filles et je suis content que finalement c'est repositionné les choses un peu autrement.
Exactement, parce qu'il est directeur général et père de famille. Merci d'être venu au micro de
France. Non, je suis père de famille et directeur général.
C'était donc Marc-Olivier Fogiel.
Merci.
Salut
beaucoup Sonia.
Bonjour Sonia de Villers. Une question qui va intéresser le père de famille Marc-Olivier Fogiel. Comment motiver les enfants à l'école? Elles sont motivées vos filles?
Oh là là, on n'a pas fait du tout les cahiers de vacances, c'est
comment
horrible.
Comment leur retirer les portables? Est-ce que vous allez
porter ça? Elles n'ont pas encore
mangé
de portables.
Oui, dans l'année.
Ils sont plus grands. Comment leur retirer les portables?
Mais le sujet d'aujourd'hui, c'est pas ça.
C'est comment les motiver. Je vais vous écouter en podcast. Ah, parce que je vais à un comité directeur.
Ah oui.
C'est comme ça qu'on appelle ça.
01 45 24 7000.